Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui, pour une fois, l'histoire de quelqu'un que je connais. L'histoire de William Chifflet, tirée de son livre « Sois bègue et tais-toi » aux éditions de l'Archipel. Salut William.
Salut Christophe. ça commence bien.
Ça commence bien. Et merci pour votre confiance William, puisque je vais raconter aujourd'hui l'histoire de ce handicap qui a bouleversé votre vie. Vous êtes bègue donc, mais sérieusement bègue. Vous le dites dans votre livre, il y a à peu près 600 000 bègues en France, mais en vérité des bègues sérieusement atteints comme vous, il n'y en a pas tant que ça. On se connaît depuis un bon bout de temps, vous avez travaillé à France Télévisions, aujourd'hui vous êtes producteur pour une grosse maison de production. J'ai choisi de raconter votre histoire au jeu, ce que je fais assez rarement, mais je me suis dit que c'était une occasion assez unique, au fond, de vous faire raconter avec fluidité, à travers ma voix, ce handicap qui a bouleversé votre vie et avec lequel aujourd'hui vous semblez en paix. J'ai écrit votre histoire avec Christophe Dumazer. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans ma vie, franchement, tout aurait dû aller très bien. Je suis le fils d'un éditeur et d'une prof d'anglais, une famille bourgeoise en légère rébellion contre son milieu, mais 68 est passé par là. On est bien né, on est dans l'air du temps, tout va bien. Et puis patatras, je me mets à bégayer. La première fois, c'est à l'école maternelle. Alors les enfants, décrivez ce que vous voyez dans cette image. Qui veut répondre? William.
Un pain?
Pardon, William?
Un pain?
D'accord, tu veux dire lapin? Comme c'est mignon, merci William. Tu peux baisser ton doigt. Je ne sais pas prononcer le L. Ça ne sort pas. Mais à part ça, on me trouve mignon. C'est charmant un blondinet qui prononce mal.
Tu vas à l'école, William? Oui, en maternelle.
Ça les fait sourire. C'est attendrissant, un enfant bègue. Moi, je n'ai pas conscience de ce qui m'arrive. Le bégaiement ne m'habite pas encore. Mais mes parents, en revanche, à partir de la grande section de maternelle, ils commencent à s'inquiéter. Alors le mercredi après-midi, il m'emmène dans un centre médico-social, pas loin de chez nous, chez une thérapeute, genre vieille fille. Elle me fait lire, décrire des images, des dessins. Et franchement, ça sert pas à grand-chose. L'année d'après, en CP, on passe à la vitesse supérieure. Une fois par semaine, le mardi, la directrice vient me chercher dans ma classe.
William, tu viens ?
Je quitte l'école plus tôt, ça me plaît bien. J'ai rendez-vous avec un orthophoniste. Mais ce que j'ai fait avec lui, je m'en souviens pas. Quand j'ai 7 ans, on déménage. On quitte le 15e arrondissement de Paris pour aller dans le Marais. Et on m'inscrit dans une école catholique. Je change d'école. Mais j'ai pas d'angoisse. On ne s'est jamais moqué de moi. On s'est moqué de mon nom, ah ça oui.
Gifler, je vais gifler.
Mais personne ne s'est jamais moqué, devant moi en tout cas, de ma façon de parler. Personne. Et à la rentrée, dans ma nouvelle école, rien ne change. Rien. Je parle, je m'exprime. Le lundi, je vais au judo, le mercredi, je vais au foot, le week-end, je vais chez les scouts. Bégayer ne me gêne pas. Une fois chez les scouts, je me souviens, j'ai fait un petit spectacle, un sketch de Fernand Reynaud. Mes parents n'en revenaient pas.
Qui c'est? C'est le plombier. Qui c'est? C'est le plombier.
Ils ont ri, mais ils n'ont pas ri de moi. De mes 8 ans à mes 10 ans, toutes les semaines, le vendredi, je vais chez un orthophoniste, à l'hôpital Trousseau. Là aussi, je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens que ça se terminait par de la relaxation, c'est tout. Et je comprenais pas à quoi ça servait. Voilà. Quand j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, le bégaiement n'est pas un gros problème. Un moins gros problème que le fait que je fasse pipi au lit. Oh ça, surtout quand je vais dormir chez un copain ou en colo. Ça, c'est l'enfer. Mais mon bégaiement, ça va. C'est vers mes 12 ans que ça a commencé à sentir le roussi. Le jour de ma profession de foi. Quelques mois avant, je suis allé voir le prêtre. William, la cérémonie à laquelle tu vas participer sera l'une des plus importantes de ta vie de croyant. Oui, mon père, oui, oui, je sais. Je vais te poser une seule question, William. Crois-tu en Dieu? Oui, bien sûr. J'ai menti. Je ne crois pas du tout en Dieu. Et puis arrive la cérémonie. Et à un moment, on avance vers l'autel, comme ça, à la queue-leu-leu. Et le prêtre tend un micro au premier.
Moi, Julien, je promets dans l'amour de Dieu.
Ça alors? On m'avait pas prévenu de ce rituel. On m'avait pas dit qu'il fallait parler dans le micro. J'aurais esquivé. Je me sens piégé. Parler devant tous ces gens, j'y arriverai pas. Je suis pas capable. Alors j'arrive devant le micro. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. À la sortie de l'église, je suis envahi par la honte. Et je vois mon père, il est au bord des larmes. Il est prêt à aller casser la figure au curé. À partir de là, je vous le dis, j'ai coupé les ponts avec l'Église catholique. Je ne croyais pas en Dieu, de toute façon. En tout cas, ce jour-là, j'ai basculé dans une autre dimension. Ce jour-là, j'ai compris que mon bégaiement aurait une lourde répercussion sur mon existence. Ce jour-là, j'ai perdu mon innocence. À la rentrée suivante, tous les mardis soirs, je vais voir un nouvel orthophoniste. Ça ne me déplaît pas, hein. C'est ma consultation. C'est ma vie, je la gère. Et puis arrive la fin de l'année. Et pour le dernier rendez-vous, le docteur fait venir ma mère.
Votre fils vit très bien avec son bégaiement. Il s'est mis en situation de le supporter, hein, et quasiment de s'en faire un allié. Ne vous inquiétez pas plus que ça, d'accord?
Eh bien, vous savez quoi? C'est mon dernier rendez-vous chez un orthophoniste. Je n'y retournerai pas. Il est peut-être temps que je vous raconte comment ça fait quand je bégaye. Chez moi, ça se traduit par un blocage. Il y a des syllabes qui sont fatales. Que, be, pe, te. Ça reste coincé dans ma bouche. Ça provoque une tension du visage, ma bouche se tord, mes yeux s'écarquillent, ma tête s'agite comme si je cherchais de l'oxygène. Et là, c'est tout le haut de mon corps qui est secoué. Je bouge les bras, je donne des coups de pied. Impossible de me contrôler. Et ce qui m'angoisse, c'est le regard des autres. Du coup, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je sais d'avance que je vais bégayer. Je m'en fous qu'ils sachent que je bégaye. Mais le spectacle que je donne, le spectacle. Un jour, ma mère me dit
« William, tu peux descendre à la boulangerie, acheter une baguette, s'il te plaît ?»
Je descends. Je choisis la boulangerie la plus éloignée de chez nous, une toute petite boulangerie. Il y aura moins de monde. Le mot « baguette ». Je vais trébucher sur le mot « baguette ».
Bonjour, une...
Et là, je lui montre les baguettes du doigt. Et elle comprend. Ouf. Chez moi, c'est pareil. On habite au troisième. Dans l'escalier, je suis censé dire bonjour au voisin. Mais bonjour, c'est le cousin de Baguette. Il y a ce fichu B. Alors quand j'entends quelqu'un qui monte, je m'y prépare un étage avant. Un étage avant, je commence à dire bonjour. En espérant que le bonjour sorte au bon moment quand je serai devant la personne. Dans l'ascenseur, c'est pareil. Si on me demande
« Quel étage ?»
C'est la panique. Alors autant que possible, j'esquive. Je montre les doigts. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Au-delà du cinquième étage, c'est la galère. J'ai intérêt à avoir l'autre main libre. Tout ça à 12, 13, 14 ans ne me laisse évidemment pas indemne. Est-ce que mes proches s'en rendent compte? Ou est-ce qu'ils pensent que ça n'est qu'une gêne, que finalement j'ai digéré? Remarquez, c'est normal, hein? Parce qu'en vérité, je simule, je feinte, je fais semblant de prendre les choses à la légère. Je pratique la fuite en avant. Et forcément, ça ne peut pas durer. Parce que ça s'aggrave, un peu comme l'acné sur le visage. Et parfois maintenant, ben... je traverse des périodes de blocage complet. Toute communication avec les autres est impossible. Alors je me tais, je m'isole, je me cache. Là où ça a commencé à devenir vraiment un problème, c'est quand je suis rentré au lycée. Quand je suis passé de mon petit collège privé, conservateur et protecteur, au grand lycée Charlemagne de Paris. Et là, il a fallu que je me taille une place tout seul. Je vais vous raconter tout ça. Le jour de la rentrée, j'appréhende. Forcément. Alors je me faufile au fond de la classe, discretos, pourvu qu'on ne me voit pas. Je trouve une place libre, je m'assois. Et là, miracle, un mec s'assoit à côté de moi, belle tête, souriant, avec un baggy et des Doc Mertens rouges.
Salut, je m'appelle Joachim. Salut, William.
Prends ton temps, tout va bien. Son sourire est complice. Il a tout compris en un clin d'œil. Joachim m'a pris sous son aile. Cool. Il est branché, en plus. Alors que moi, je me cherche. Et lui me permet d'approcher ce que tout le monde envie au lycée. Les vrais branchés. Ceux qui font de la musique. Ceux qui sortent le soir. Ceux qui se font la bise entre mecs. J'ai de la chance. Ah ça oui. J'ai trouvé mon protecteur. Mais en dehors du lycée, je n'ai pas de relation normale avec les autres. Je n'ai pas d'amis. On est dans les années 80, il n'y a pas de portable. Il n'y a que le fixe. Et le fixe, je ne peux pas. Allô, je ne peux pas.
Allô? Allô? Allô, allô?
Si seulement j'avais été adolescent à l'heure du SMS. En vérité, je traverse la pire période de ma vie. Mon bégaiement est au centre de tout. Un jour, mes parents rentrent de chez Ikea en voiture. Et sur Europe 1, ils entendent un certain Ivan Impoco, un ancien bègue qui raconte qu'il a trouvé une méthode pour se libérer du bégaiement.
Ivan Impoco, l'homme qui libère les bègues, c'est l'entretien de Laurent Huidimier.
Parce qu'il ne voulait pas que plus tard son fils ait honte d'avoir un papa qui bégaye, Ivan Impoco s'est enfermé un jour, tout seul dans une pièce. Il a réfléchi et a finalement trouvé le remède. En 2 mois, il a surmonté ce handicap.
Il y a une partie non sonore, tout ce qui se passe avant de vouloir faire une phrase, c'est-à-dire avoir un comportement d'acteur, se dire en permanence qu'on est, nous aussi, l'acteur principal de notre existence. Deuxième partie du travail, c'est une partie technique pure, en passant par le biais musculaire. Là, je l'exagère juste un peu. Chaque syllabe, donc, est le résultat d'une contraction musculaire qui déclenche un son ressemblant, plus ou moins, à la syllabe.
Et il ne bégait pas. Et donc, quand ils arrivent à la maison, mes parents sont enthousiastes. Mon père appelle Europe 1, il obtient ses coordonnées. Et quelques semaines plus tard, je commence un stage à l'Institut d'élimination du bégaiement à Lille.
Vous étiez bègue ! C'est fini ! Si vous le voulez, vous pouvez lui faire la peau à ce bégaiement. C'est vous qui décidez !
La technique d'Ivan Impoco est basée sur les impulsions musculaires. Un mouvement vif de l'avant-bras vers le bas, ça entraîne une expiration automatique. Et là, on sort le son. On est 12 autour de lui à ce stage. Surtout des garçons, parce que 4 bègues sur 5 sont des garçons. Nous sommes tous des naufragés de la parole. Et donc, il nous apprend à donner cette impulsion musculaire avec le bras, de haut en bas. Et pour la première fois, je perçois une faille chez mon ennemi intérieur. Et je garde de cette première matinée de stage un souvenir extraordinaire. Après, c'est moins facile que prévu. Hein ? On va dans la rue, aborder des gens.
Bonjour ! Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, la boulangerie la plus proche ?
Avec nos mouvements de bras vers le bas, on a l'air de demeurer. Mais c'est sa théorie. Tout, sauf le bégaiement. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou. Et j'ai le sentiment de ressembler à un taré. Mais bon, au fil des jours, je progresse. Les impulsions de mon bras deviennent moins fortes, moins visibles. Il se passe un truc. Le vrai combat commence quand je rentre à Paris, quand je dois mettre en pratique la méthode. Et en vérité, certes, il y a des moments de fluidité, mais je suis toujours bègue. Je continue à croire à sa méthode, je fais les exercices tous les jours, le matin, une demi-heure, mais je reste bloqué. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, et évidemment, vous vous demandez si j'ai réussi à tomber amoureux. Eh bien oui, Sidonie. Je la rencontre dans la cour du lycée, le jour de ma rentrée en première. On est dans la même classe. Et oui, on sort ensemble. Et tout de suite, face à mon problème, elle trouve la bonne attitude. Quand j'ai besoin, elle m'aide. Il lui arrive de finir mes phrases. Mais souvent, elle me laisse me débrouiller. C'est comme si elle sentait qu'elle ne devait pas intervenir. Bref, elle est parfaite. Tout ça me donne l'occasion de parler du sujet. Est-ce que j'aime qu'on finisse mes phrases à ma place ? C'est souvent la première question que me posent les non-bègues. Au lycée, il y a un élève comme ça, Guillaume, qui finit toutes mes phrases quand je n'y arrive pas. J'aime pas trop. En fait, ça dépend de qui et comment. Il ne faut pas que ce soit systématique. Si ça m'économise de l'énergie, pourquoi pas ? Mais si c'est un truc personnel, si c'est un truc intime, C'est comme une intrusion dans mon intimité. Sidonie, elle a le droit de finir mes phrases. Parce que, en un regard, elle sait si elle peut parler à ma place. Et me voilà en cours avec Denis Jambard, qui à l'époque dirige le magazine Le Point.
Bonjour à tous. Mon cours cette année va porter sur la science des sondages. Mais comme nous allons passer une année ensemble, j'ai besoin d'en savoir davantage sur vous. Alors je vais vous proposer de vous présenter chacun votre tour. Allez-y, commencez.
Oh non! Putain, je suis mal. Rien ne me fait plus peur que ça. Ça déclenche toujours chez moi une sorte de tempête. Des rougeurs, les chines glacées, les tempes humides.
Bonjour, je m'appelle William Chifflet. Vous avez compris que j'ai une particularité, je bégaye, mais je fais avec.
Eh oui, c'est comme ça que je fais maintenant. J'assume, je dis simplement qui je suis. Et au final, même si mon intervention est un peu pathétique, et celle-là l'a été, on me regarde comme un type courageux, comme un type sympathique qui tente de surmonter son handicap. Mais quelques semaines plus tard, on doit faire un exposé à Troyes. Je me dis j'y vais, je ne me défausse pas. On a prévu de parler chacun son tour, je parlerai le deuxième. Ça tourne au désastre. Mon exposé est heurté, haché, sans doute incompréhensible. Je me flanquerai des gifles. Mes progrès ne sont qu'illusions. On me propose un stage à France 2, la deuxième chaîne de télévision française. Je me pince pour y croire. À la direction des études, qui s'occupe des audiences et du médiamétrie. J'ai rendez-vous avec une certaine Sophie.
Je dois d'abord vous expliquer que j'ai des blocages que vous risquez d'entendre, mais ils sont pas causés par le stress. Je bégais, et là ça plein temps, même pendant les entretiens.
Eh bien, on était trois candidats, et c'est moi qui ai eu le stage. Voilà, j'arrive au bout de mon histoire. Ma priorité était une vie normale. Objectif atteint. J'ai réussi à rétrograder le bégaiement à un statut inférieur. C'était un combat. C'est devenu une gêne. Rien de plus.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.